Brouillon de lecture. Brouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer, pour vous, éventuellement vous donner envie de le lire à votre tour. Et ce, confortablement installé chez vous, et le plus simplement du monde, par la simple lecture d'extraits, choisis parfois par Catherine, parfois par Hervé. Et aujourd'hui, ce sera Hervé. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Nous allons avoir le plaisir de passer une heure ensemble.
Exactement.
Peux-tu nous lire le titre du roman que tu as choisi de nous lire aujourd'hui ?
Oui, à la fin de l'émission, je suis incapable de lire les titres pour l'émission prochaine, mais en début d'émission, je sais à peu près ce que je vais lire. Oui.
Au moment de l'enregistrement, c'est bien.
C'est mieux. Hein. Donc aujourd'hui, j'ai choisi un roman de Laetitia Colombani qui s'appelle « Les Victorieuses », sorti aux éditions Grasset en 2019. Tout d'abord, je m'adresse aux auditeurs qui ont déjà écouté cette émission. Et il y en a, j'espère.
Et ils sont nombreux.
Et ils sont nombreux. Et à eux, je leur rappelle que j'avais déjà lu en cette année 2019 un autre roman de cette jeune auteure française.
La Tresse.
Qui s'appelait La Tresse, oui. Alors, pourquoi je rééditionne ? D'autant qu'avec une émission de radio, c'est difficile, même impossible, de savoir l'impact d'une lecture sur les auditeurs. Mais il se trouve que je fais également des lectures publiques à la bibliothèque de Vineuil. Là, je fais ma publicité.
Oui, c'est de la com, ça.
C'est de la com, oui. Et ce roman, La Tresse, avait plu à mon public avisé. Laetitia Colombani a un style, on va dire, direct, avec des scènes aisément visualisables en imagination. Tu vois, elles vont bien d'un point A à un point B. Et donc, quand son dernier roman, Les Victorieuses, est sorti à nouveau aux éditions Grasset en 2019, je me suis précipité pour le lire et j'ai été, on peut le dire, à nouveau emballé. La trame est encore très simple, non pas sur trois niveaux comme avec La Tresse, tu te rappelles, Dominique ?
Oui, avec la petite indienne.
C'est ça.
La jeune femme italienne ou corse ou sicilienne
Non, sicilienne.
Sicilienne.
Qui faisait
et la troisième américaine ou canadienne. Canadienne peut-être.
Donc là, ça fonctionne sur deux niveaux, ce livre-là. Et le tout se passe en France, à Paris, mais à deux époques différentes. On verra bien. Et je commence par vous présenter Solène dans un Paris tout à fait actuel. Solène, Paris aujourd'hui. Tout s'est passé en un éclair. Solène sortait de la salle d'audience avec Arthur Sinclair. Elle s'apprêtait à lui dire qu'elle ne comprenait pas la décision du juge à son encontre, ni la sévérité dont il venait de témoigner. Elle n'en a pas eu le temps. Sinclair s'est élancé vers le garde-corps en verre et l'a enjambé. Il a sauté de la coursive du sixième étage du palais. Durant quelques instants, qui ont duré une éternité, son corps est resté suspendu dans le vide. Puis, il est allé s'écraser 25 mètres plus bas. Cette image hante Solène. Elle ne peut l'oublier. Elle revoit le corps de son client désarticulé sur les dalles en marbre du palais. Elle songe à sa famille, à ses enfants, à ses amis, à ses employés. Elle est la dernière à lui avoir parlé, à s'être assise à ses côtés. Un sentiment de culpabilité l'accable. Où s'est-elle trompée ? Qu'aurait-elle dû dire ou faire ? Aurait-elle pu anticiper, imaginer le pire ? Elle connaissait la personnalité d'Arthur Sinclair, mais son geste demeure un mystère. Solène n'a pas vu en lui le désespoir, l'effondrement, la bombe sur le point d'exploser. Le choc a provoqué une déflagration dans sa vie. Solène est tombée, elle aussi. Dans la chambre au mur blanc, elle passe des jours entiers les rideaux fermés, sans pouvoir se lever. La lumière lui est insupportable. Le moindre mouvement lui paraît surhumain. Elle reçoit des fleurs de son cabinet, des messages de soutien de ses collègues qu'elle ne parvient pas même à lire. Elle est en panne, telle une voiture sans carburant au bord de la chaussée. En panne l'année de ses 40 ans. Tout avait pourtant bien commencé. Née dans une banlieue aisée, Solène est une enfant intelligente, sensible et appliquée, pour laquelle on nourrit de grands projets. Elle grandit entre deux parents, professeurs de droit, et une petite sœur. Elle mène une scolarité sans heurts, est reçue à 22 ans au barreau du Paris, obtient une place de collaboratrice dans un cabinet réputé. Jusque-là, rien à signaler. Bien sûr, il y a l'accumulation de travail, les week-ends, les nuits, les vacances consacrées aux dossiers, le manque de sommeil, la répétition des audiences, des rendez-vous, des réunions, la vie lancée comme un train à grande vitesse qu'on ne peut arrêter. Au bout de quelques semaines de traitement, elle parvient à quitter la chambre au mur blanc pour faire un tour dans le parc. Assis sur le banc près d'elle, le psychiatre la félicite de ses progrès comme on flatte un enfant. « Elle pourra bientôt regagner son appartement, lui dit-il, à condition de continuer son traitement. » Solène accueille la nouvelle sans joie. Elle n'a pas envie de se retrouver seule chez elle, sans but et sans projet. Elle ne retournera pas au cabinet. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. La seule idée de passer les portes du palais de justice lui donne la nausée. Longtemps, elle évitera même le quartier. Elle va démissionner. De retour, il ne peut être question. Solène avoue au psychiatre qu'elle redoute de quitter la maison de santé. Elle ignore à quoi ressemble une vie sans travail, sans horaire, sans réunion, sans obligation. Sans amarre, elle craint de dériver. « Faites quelque chose pour les autres, lui suggère-t-il. Pourquoi pas du bénévolat ?» Solène ne s'attendait pas à cela. « La crise qu'elle traverse est une crise de sens, poursuivit-il. Il faut sortir de soi, se tourner vers les autres, retrouver une raison de se lever le matin, se sentir utile à quelque chose ou à quelqu'un. » Des comprimés et du bénévolat, voilà tout ce qu'il lui a à lui proposer. 11 ans d'études pour en arriver là. Solène est déconcertée. Elle n'a rien contre l'action bénévole, mais elle ne se sent pas l'âme d'une mère Teresa. Elle ne voit pas qui elle pourrait aider dans son état, alors qu'elle parvient à peine à sortir de son lit. Mais il a l'air d'y tenir. « Essayez !» insiste-t-il, tout en signant le formulaire de sortie. Chez elle, Solène passe des journées à dormir sur le canapé, à feuilleter des revues qu'elle regrette aussitôt d'avoir achetées. Les appels et visites de sa famille et de ses amis ne parviennent pas à l'attirer de sa mélancolie. Elle n'a goût à rien. Pas envie de faire la conversation, tout l'ennui. Elle erre sans but dans son appartement, de la chambre au salon. De temps en temps, elle descend à l'épicerie du coin et s'arrête à la pharmacie pour renouveler ses cachets, avant de remonter se coucher. Par une après-midi désœuvrée, elles le sont toutes à présent, elle s'installe à son ordinateur, un MacBook dernier cri offert par ses collègues pour ses 40 ans, juste avant son burn-out. Il n'a pas beaucoup servi. Du bénévolat, après tout, pourquoi pas? Le moteur de recherche l'oriente vers un site de la mairie de Paris recensant les annonces postées par les associations. Le nom du domaine la surprend. Je-m'engage.fr. L'engagement à portée de clic, promet la page d'accueil. Une multitude de questions y sont posées. Où voulez-vous aider? Quand? Comment? Solène n'en a aucune idée. Un menu déroulant propose des intitulés de mission. Atelier d'alphabétisation destiné aux personnes illettrées. Visite à domicile de malades d'Alzheimer. Cyclo-livreur de dons alimentaires. Maraude de nuit pour les sans-abri. Accompagnement de ménages surendettés. Soutien scolaire en milieu défavorisé. Visiteur de prison. Tuteur de lycéens handicapés. Permanence téléphonique. SOS Amitié, formateur aux gestes de premier secours, est même proposé une mission d'ange gardien. Solène sourit, elle se demande où est passé le sien. Il a dû volter un petit peu trop loin, il s'est perdu en chemin. Elle arrête ses recherches désemparée par la profusion d'annonces. Toutes ces causes sont nobles et méritent d'être défendues. L'idée de faire un choix la paralyse. Elle préfère encore donner de l'argent. C'est moins contraignant. Au fond d'elle-même, elle se sent lâche de renoncer. Elle va refermer le MacBook, retourner sur le canapé, se rendormir pour une heure, pour un mois, pour un an, s'abrutir à coups de cachet pour ne plus penser. C'est à cet instant qu'elle l'aperçoit. Une petite annonce tout en bas, quelques mots qu'elle n'avait pas remarqués. Mission d'écrivain public, nous contacter. petite respiration, histoire d'aller voir un verre. Et je reprends tout de suite. Premier jour. C'est aujourd'hui le premier jour de Solène en tant qu'écrivain public au Palais. L'horaire de sa permanence a été choisi avec la directrice. Elle a suggéré le jeudi en fin de journée. Dans l'après-midi se tient le cours de Zumba. Le jeudi est un bon créneau, a-t-elle affirmé. Sur le moment, réflexe d'avocate, Solène s'est entendue répondre qu'elle devait consulter son agenda. Puis, elle s'est ravisée. Le jeudi, c'est bien. Elle s'est gardée d'avouer qu'elle n'avait rien à faire d'autre de ses journées, que ses semaines s'écoulaient dans le désœuvrement le plus complet. Pour être crédible, il faut avoir l'air occupé, tout le monde le sait. Comme toujours, Solène est à l'heure. Elle presse la sonnette invitée et la voilà dans le palais. Le grand foyer est calme en cette fin de journée. Un petit groupe d'Africaines prend le thé dans les fauteuils en osier. Non loin, un couple discute dans une langue que Solène ne comprend pas, du Wolof ou du Swahili. Auprès d'eux, un bébé d'un an court en chaussettes sur le carrelage en céramique, chancelant à chaque pas. Solène ne sait où se poser. Elle hésite, avise une table flanquée de deux chaises dans un coin. Elle sort de son sac un bloc-notes et son MacBook dernier cri. Elle se sent gênée soudain d'exhiber l'appareil ici. Les portables et les ordinateurs sont de nouveaux signes extérieurs de richesse. Elle a lu cette étude américaine affirmant qu'on pouvait déduire le revenu d'un individu du seul modèle de son smartphone. Quel manque de tact d'étaler son train de vie. Elle se maudit de ne pas y avoir pensé plus tôt. Un instant, elle est tentée de fuir, se cacher. Trop tard, la permanence va commencer. Assise non loin, les Africaines la dévisagent d'un air distant. Elle semble se demander ce qu'elle fait là, avec son ordinateur flambant neuf et son sac griffé. Quelques résidentes traversent le hall et lui jettent un regard indifférent. Solène n'ose pas les aborder pour se présenter. Une femme sort de l'ascenseur encombrée de cabas. Solène reconnaît celle qui dormait sur les fauteuils de l'accueil le jour de sa première visite avec la directrice. Elle est aussi chargée que la dernière fois. Elle cherche quelque chose des yeux dans la salle. « Une candidate pour moi », songe Solène, dont le pouce accélère. Mais non, la femme s'approche d'une banquette, répartit ses sacs autour d'elle et s'allonge. Elle ferme les yeux et s'endort sans tarder. Solène est déstabilisée. La minute passe et personne ne se manifeste. Elle observe l'endroit, détaille les murs décorés de bas-reliefs. Au sol, les carreaux de céramique forment un étrange symbole, un grand S orné d'une croix et de deux épées surmontées d'une couronne. Le sigle porte la mention « Armée du salut ». Solène poursuit son exploration de la pièce. Assise derrière une plante, une femme aux cheveux courts est en train de tricoter, si fine et si discrète que Solène ne l'avait même pas remarquée. De petites lunettes sur le nez, elle semble totalement absorbée par son ouvrage, un pull en maille côtelée. Ses aiguilles s'agitent tandis que son visage n'exprime aucune expression. C'est étrange, pense Solène, on dirait du carton. Elle paraît seule au monde, au milieu du foyer. Solène commence à se demander pourquoi elle est là. La directrice devait prévenir les résidentes de son arrivée. Cela n'a pas dû être fait. Ou bien les femmes s'en moquent. Elle s'attendait à être mieux accueillie. Quelle perte de temps. Personne n'a besoin d'elle, ici. L'horloge murale affiche presque 7 heures. La permanence s'est écoulée sans qu'aucune résidente soit venue la solliciter. Solène soupire. Zéro pointé. Déçue, elle referme l'ordinateur et range son bloc-notes. C'est donc cela le bénévolat censé l'aider à remonter la pente? Quelle plaisanterie! Elle s'apprête à se lever lorsqu'apparaît une femme âgée tirant derrière elle un cabas à roulettes. Elle se dirige droit vers Solène. « Pour lire les lettres, c'est vous ?» lance-t-elle sans préambule comme on jette un os à un chien. Elle a un fort accent étranger, slave ou bien roumain. Solène est prise de court. « Je suis là pour rédiger des lettres, » répond-elle, « mais lire, c'est possible aussi. » Ouvrant son chariot, la femme commence à sortir un fatras de courriers en tout genre, des enveloppes à entête administrative, des cartes postales, des prospectus, des publicités. Son caddie en est rempli à ras-bord. Elle vide tout sur la table, devant Solène éberluée. « Lis-moi, s'il te plaît !» Solène marque un temps, se demandant comment se tirer de ce mauvais pas. « Je ne peux pas, pas tout ça, je peux vous lire les cartes postales, si vous voulez. » Au milieu de l'amoncellement, elle attrape quelques cartes et s'arrête désemparée. Elles sont écrites en alphabet cyrillique. Solène observe le timbre sur le papier corné. Il vient de Serbie. C'est la même écriture sur toutes les cartes. Sans doute un membre de sa famille ou un ami. « Je suis désolée, je ne parle pas cette langue, » avoue-t-elle. Sans commentaire, la femme attrape les cartes et les remet dans le caddie. Elle lui tend maintenant des courriers administratifs. Solène en décachette un de la CAF. Il s'agit d'une demande d'attestation nécessaire au versement des droits. Elle tente d'expliquer à la femme de quoi il retourne, mais celle-ci l'écoute à peine et finit par replacer la lettre dans le cabas. Même jeu pour l'enveloppe suivante, une relance d'opérateur de téléphonie mobile, stipulant que si les factures ne sont pas payées sous un mois, la ligne sera coupée. Le courrier date de l'année précédente. Solène propose à son interlocutrice de noter les documents à renvoyer, les sommes à payer. Mais celle-ci secoue la tête. « Je me souviens !» lui dit-elle en désignant son front. L'enveloppe disparaît dans son caddie. Solène poursuit, ouvre des dizaines de courriers. Il faut aussi lire les publicités. La famille tient. Il y a là des offres promotionnelles pour des lunettes, des volets, des smartphones, des lecteurs de DVD, des alarmes, des vêtements, des parfums, des jouets, des promotions dans différents magasins, des brochures innombrables et interchangeables sans aucun intérêt. Lorsque Solène jette un œil à l'horloge du foyer, 2 heures ont passé. Elle n'en peut plus. L'endroit s'est vidé, les buveuses de thé ont disparu, tout comme la tricoteuse. Auprès d'elle, la Serbe ne paraît pas s'impatienter. « On finira une autre fois !» finit par annoncer Solène. « Je dois y aller !» La résidente acquiesce sans protester. Elle ouvre son caddie, y fourre toutes les publicités et lettres qui n'ont pas encore été ouvertes au milieu de celles déjà lues, et s'éloigne sans dire merci. Un peu désappointée, Solène enfile son manteau et se dirige vers la sortie. Quelle étrange journée ! Plutôt déroutant pour un début. Au moins, j'ai pu aider quelqu'un, conclut-elle en tentant de donner un sens à cette séance pour le moins incongrue. Au moment de partir, elle aperçoit la Serbe dans l'entrée. Penchée sur une poubelle, elle est en train d'y vider tout le contenu de son caddie. Solène reste hébétée. Il est 9 heures du soir, sa première permanence au palais vient de s'achever. Wapitam pam papoué, ti pam pam pam, pam papoué. Wapitam pam papoué, ti pam pam pam, pam papoué. Je porte à l'auriculaire une chevalière 1.4 carats, large comme ma face. On dit que je prends des airs, je fais des manières, mais quand je donne ma main, tu l'embrasses. Quand mes fesses plissées s'enfoncent dans le cuir, mon pouvoir est bien en place, et je lâche pour moi-même un sourire. Aussi loin que me ramènent mes souvenirs sur terre, j'ai toujours rêvé d'être un gangster. Un affranchi, c'est tout réfléchi. Et je remercie Martin Scorsese et Joe Pesci. Nous célébrons toute votre classe éternelle lors de nos joutes au petit vin blanc sous les tonnelles. Wapitam pam papoué, ti pam pam pam, pam papoué. Wapitam pam papoué, ti pam pam pam, pam papoué. Entre toutes les familles du milieu, les règles sont strictes et chacune a
son territoire de jeu. Inutile pour un chanteur aphone de Noisy le Sec de vouloir faire la nique aux voix surpuissantes du Québec. Un jour un frimeur de Passy se mit à faire du ragga dub style. Des gars de Saint-Denis sont venus chez lui et l'ont criblé de balles vocales. Inutile de jouer l'imposture, les faux Django se prennent des cartouches de riff manouche à coup sûr. Godfather 1, 2, 3. Jamais vu de vrai gun ailleurs qu'au cinéma, au casino, en costard mauve, un freak dans la mafia. Philosophie de Sicile, omerta, mes amis, mon clan, mes frères, mes coups de fellasse. Nos guitares sont des famas et nos basses font trembler les bougnards. Quand dans les brumes du quartier latin, on entend se friter les petits chanteurs du quotidien. Je porte sous mon suaire un complet gris clair et les fils de soie recouvrent ma carcasse. Avoir l'art et la manière de quitter la terre, pleurer par la maman et toucher par la grâce. Et mon âme libérée retourne dans la lune. Les étoiles ont trop la classe et je restitue mon corps sans rancune. Aussi loin que me mène mon chemin dans l'univers, transporté par des airs de gangsters de la chanson française d'après-guerre.
Aujourd'hui, les buveuses de thé l'ont salué. La tricoteuse n'a pas levé les yeux. Le contraire l'aurait étonnée. La dame au cabas dort dans un coin, ramassée sur elle-même. De la table qui lui est désormais réservée, Solène voit arriver la Serbe, flanquée de son inénarrable caddie. Elle pâlit, elle n'est pas prête à se livrer à une nouvelle séance de torture. Elle tente de se cacher derrière l'écran de son ordinateur, comme la tricoteuse derrière son pot de fleurs. Trop tard, la Serbe l'a repérée. Elle se dirige droit vers elle, s'assoit sans y être invitée. Solène tente de faire bonne figure. Elle explique diplomatiquement qu'elle n'a pas le temps de lire aujourd'hui. En fait, elle est là pour écrire. Oui, elle est écrivain public. Ces mots sonnent encore étrangement dans sa bouche. Elle a du mal à les prononcer, comme si elle ne se sentait pas tout à fait légitime. La Serbe hoche la tête. Écrire, c'est bien aussi. Elle a justement besoin d'une lettre. Une lettre pour Elisabeth, précise-t-elle, mais elle n'a pas l'adresse. Voilà qui commence bien, songe Solène. Une nouvelle galère. La Serbe la monopolise pour rien. Solène aimerait bien consacrer son temps à des tâches plus utiles. Pourtant, impossible d'y couper. Est-ce que c'est une de vos proches, de vos amis, interroge-t-elle. La Serbe secoue la tête. Non, c'est Elisabeth. Elisabeth II d'Angleterre. « Je veux un autographe, dit-elle. J'en ai déjà plusieurs, mais pas celui-là. » Solène marque un temps atterré. Cette femme qui manque de tout, qui habite en foyer, cette femme dont la directrice lui a raconté la vie âpre, abîmée, maltraitée, marquée par la guerre, les abus et la prostitution, cette femme-là n'a qu'une chose à demander, la signature de la reine d'Angleterre. Solène ne sait que répondre à cela. Cette requête la déroute autant qu'elle la bouleverse. La Serbe n'a pas l'air folle. Elle semble juste enfermée dans un monde qui lui appartient, qu'elle a peut-être construit pour se protéger des épreuves subies. Solène voudrait lui dire que sa démarche est vaine, que la reine d'Angleterre ne lui répondra pas, qu'elle dort dans un palais, un vrai, bien loin de celui-ci, qu'elle est née dans un monde où les enfants ne sont pas déchiquetés par les bombes sous les yeux de leur mère, où les femmes ne sont pas violées en réunion par 10 soldats avant d'être livrées à un réseau de prostitution. Elle voudrait lui dire qu'Elisabeth s'en fout de son malheur, de sa vie, de ce corps supplicié qu'elle traîne partout comme elle traîne son caddie. Elle voudrait lui dire tout ça, mais elle ne le fait pas. Après tout, pourquoi pas ? Une lettre à la reine d'Angleterre, c'est mieux que 2 heures à lire les prospectus et les publicités. Solène allume son MacBook et commence à taper. Elle ne sait pas par où commencer. « Chère reine Elisabeth, n'est-ce pas trop familier ?» Elle efface, reprend. « Votre Altesse Sérénissime ?» Ah non, ça fait un petit peu trop SAS. Elle ignore la formule consacrée. En 15 ans d'avocature, elle a eu le temps de maîtriser les tournures de politesse, mais elle ne connaît pas celle-ci. Niveau protocole, elle n'est pas très calée. « Je devrais regarder plus souvent les émissions sur les têtes couronnées », songe-t-elle ironiquement. Après une brève recherche sur Internet, elle opte pour la sobriété. Mieux vaut laisser de côté les formules ampoulées, les « daigne votre majesté accepter l'expression de mon profond respect » et autres. « J'ai l'honneur d'être avec la plus grande déférence votre très très humble serviteur. » Solène achève de rédiger le courrier et le lit à haute voix. Svetlana, c'est le nom de la femme, secoue la tête. « Ça ne va pas, il faut écrire en anglais. » Solène s'arrête, penaude. La remarque est frappée au côté du bon sens. En anglais pour la reine d'Angleterre, l'évidence se passe de commentaires. Une femme d'une 30aine d'années déboule à cet instant dans le foyer. Elle paraît furieuse et se précipite vers les buveuses de thé. Elle se met à hurler qu'elles font chier les tatas. La plaque de la cuisine du 2e est encore niquée. Elle se croit chez elle ou quoi ? Elle en a ras-le-bol de les entendre jusqu'à minuit. Et il y en a qui dorment en tout cas, qui essayent. Et puis il faut arrêter de foutre les poussettes dans le couloir. La prochaine fois qu'elle en chope une, elle la vole et la vend sur eBay. Au moins ça lui fera de la thune. La tricoteuse lève les yeux de ses aiguilles d'un air indifférent, tandis que la dame au cabas s'éveille en sursaut. « Tu pourrais faire moins de bruit » poteste-t-elle. La jeune femme réagit instantanément. « Qu'est-ce que tu fous encore là, à pioncer ? C'est les parties communes ici. T'as une chambre et un lit. Si tu veux dormir sur un banc, t'as qu'à retourner dans la rue. Ça libérera une place pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. » La dame au cabas s'énerve. « Qu'est-ce que tu sais de la rue ? Tu n'y as jamais promené ton cul. »« Mon cul, il en a vu d'autres !» lui répond l'autre en hurlant plus fort. « Et des plus belles que le tien !»« Ça m'étonnerait, tu veux comparer ? Combien de fois t'as été violée ?» réplique la dame au cabas. Les buveuses de thé s'en mêlent. Le ton monte. Il en faudrait peu pour qu'elles en viennent aux mains. Solène s'est arrêtée d'écrire sidérée. En face d'elle, Svetlana hausse les épaules, visiblement habituée. C'est Cynthia. Elle est en colère, toujours en colère, Cynthia. L'employé de l'accueil vient s'interposer. Elle demande à Cynthia de se calmer. Ses visites ont déjà été suspendues pour un mois. Elle risque une nouvelle sanction si elle continue comme ça. Après une dernière insulte au tata et à la dame au cabas, Cynthia finit par s'en aller. Le silence revient dans le grand foyer. Solène s'aperçoit que Svetlana n'est plus là. Elle s'est envolée avec son caddie sans attendre sa lettre. Solène observe le courrier en anglais qu'elle vient de rédiger. Que doit-elle en faire ? Le jeter ? Le poster ? Le conserver pour une prochaine fois ? Quel est le sens de tout cela ? Solène l'ignore. Quelque chose lui échappe de cet endroit, de ces femmes qu'elle côtoie sans vraiment les rencontrer. Elle n'a pas le code pour déchiffrer les âmes et les comportements, pas le mode d'emploi. Pourtant, elle le sent, elle est en train de gagner sa place ici, lentement. La directrice avait raison, songe-t-elle en quittant le palais. Il faut du temps. Mais de temps en temps, Solène peut entrevoir quelques éclaircies. C'est bien. Cette nuit-là, Solène ne parvient pas à trouver le sommeil. Trop d'émotions, trop de pensées se bousculent en elle. Elle pense à Binta, à Sumeya, à Cynthia, à Svetana, à la tricoteuse, à la dame au cabas, à Salma. Elle hésite à prendre des cachets pour sombrer et se ravise. Non, elle ne cédera pas à la facilité des somnifères. Pas cette fois. Elle se lève et allume la lumière, quitte à ne pas dormir. Autant écrire, loin, très loin d'ici, en Guinée, un petit garçon attend des nouvelles de sa maman. Cette lettre, Solène l'a promise à Binta pour son fils resté en Guinée. Elle ne veut pas la décevoir. Elle ne s'installe pas à son ordinateur, l'outil ne lui semble pas approprié. Il est des lettres qu'on écrit avec la main et qu'on dicte avec le cœur. C'est sans doute la tâche la plus difficile qui lui ait été confiée. Elle n'avait pas saisi jusqu'alors le sens profond de sa mission. Écrivain public, elle le comprend seulement maintenant. Prêter sa plume, prêter sa main, prêter ses mots à ceux qui en ont besoin, tel un passeur qui transmet sans juger. Un passeur, voilà ce qu'elle est. Binta a fui loin de la Guinée. À Solène de la rendre à ce pays qu'elle a quitté, de la restituer à son fils à travers quelques mots échangés. Dans ces quelques grammes de papier, il y a le poids d'une vie. C'est lourd et léger à la fois. Ce n'est pas rien, songe Solène, d'être dépositaire de tout cela. Elle pense à la confiance que lui a accordée Binta en lui livrant son histoire. Elle doit en être digne. Elle ne sait comment elle va s'y prendre, mais elle va s'acquitter de ce devoir avec toute l'honnêteté, toute l'intelligence et la sensibilité que la nature a bien voulu lui donner. Les mots, elle va les trouver. Dut-elle y passer la nuit ? Elle se lance sur le papier tel un plongeur du haut d'un rocher. Elle écrit, rature, barre, reprend. Elle ignore comment on s'adresse à un enfant de 8 ans. Elle manque d'expérience en la matière. Elle tente d'imaginer Kalidou, c'est le nom de l'enfant, de déduire ses traits du visage de sa mère et de sa petite sœur. Et soudain, elle le voit. Il est là, auprès d'elle. Elle lui chuchote des mots tout doucement à l'oreille. Elle lui dit que sa maman l'aime, qu'il est son trésor, sa fierté. Elle lui dit qu'ils se reverront un jour. Elle le lui promet. Tandis qu'elle écrit, un étrange phénomène se produit. Solène devient Binta. Elle devient Kalidou, comme si de ce courrier, elle était à la fois l'expéditeur et le destinataire mêlé. C'est un drôle de sentiment qu'elle ne connaissait pas, celui d'être gagnée par la vie des autres, envahie, habitée. Ce n'est pas elle qui tient la plume. Il lui semble que quelqu'un se penche sur son épaule et lui souffle le contenu de la lettre. Les phrases roulent, limpides, évidentes. Elles se succèdent et s'enchaînent dans une étonnante fulgurance. Les mots lui viennent sous la dictée d'une muse invisible, d'une entité plus grande qu'elle. Elle n'est jamais allée en Afrique. Elle n'a jamais été mutilée. Elle n'a jamais connu l'enfantement ni la douleur d'abandonner ce que l'on a porté et élevé. Elle n'a pas traversé le Mali ni l'Algérie. Elle ne s'est pas dissimulée dans la cale d'un cargo sans boire ni manger durant des jours et des nuits. Elle ne sait pas le désespoir, l'angoisse qui vous noue le ventre d'être découverte, renvoyée. Elle ignore la peur de finir noyée dans l'obscurité, au fond de cette eau glacée qui en a vu périr tant d'autres avant elle. Elle ne connaît rien de tout cela, de ce chemin qui est un combat, de cette vie en forme de survie. Pourtant, les mots sont là. Ils s'imposent à elle comme si la voix de Binta se mêlait à la sienne. C'est un chant étrange, une injonction en forme de dictée, une transfusion d'âme où Solène donne autant qu'elle reçoit. Le jour se lève déjà. Par la fenêtre, les premières lueurs de l'aube apparaissent, colorant le ciel et les toits. La lettre est terminée. Elle s'est enfantée seule, telle une génération spontanée de papier. Solène se sent à la fois remplie et vidée. La lettre fait 10 pages. Une lettre fleuve qui prend sa source à Paris pour se jeter dans la baie de Sangareya, près de Conakry, où vit la famille de Binta. 10 pages pour l'amour d'une mère. Il fallait au moins ça, songe Solène en s'endormant ce matin-là.
T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. T'oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai sécher tes larmes au vent de Capo-Cadino. Respire la violette à Parme et les épices à Colombo. On verra le fleuve Amazon et la vallée des orchidées. Et les enfants qui se savonnent le ventre avec des fleurs. Abraham, c'est encore plus beau qu'on le dit. Il y a des Van Gogh à Amsterdam qui ressemblent à des incendies. On goûtera les ardues et on boira du vin de Moselle. Je t'ai raconté le succès que j'ai eu en jouant, jouant aux Ganarelles. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. T'oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai voir Liverpool. Et c'est guirlande de ad hoc. Et des pays où il y a des poules qui chantent aussi haut que le coq. Tous les livres les plus beaux de Colette, de Marcel Aimé, sont des Rabelais ou de Léoto. Je suis sûre que tu vas les aimer. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne plaît pas. T'oublieras, mon petit loup, ne plaît pas. Je t'apprendrai à la Jamaïque la pêche de nuit au Lamparo. Je t'amènerai faire un pique-nique en haut du Kilimanjaro. Et tu grimperas sous mon dos pour voir le plafond de la Sixtine. On sera fasciné au Prado par les Goyas ou les Ménines. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. T'oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Il y a des types qui ont tous les soirs du désespoir plein la trompette. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Oublie-les, les petits cons qui t'ont fait ça. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Je t'en supplie, mon petit loup, ne pleure pas.
La suite, j'ai choisi de passer au deuxième niveau. Hein, tu te rappelles, Dominique, au début, j'avais dit qu'il y avait deux niveaux dans ce bouquin. Ça se passe toujours à Paris, mais à une époque différente. en 1925, pour être plus précis. Et là, vous allez faire connaissance avec Blanche Perron. Alors, quel est le rapport entre Blanche Perron et Solène? Eh bien, je crois que vous allez rapidement comprendre le rapport entre ces deux époques. Celle de 1925, donc, et celle qui se passe aujourd'hui avec Solène. Blanche, Paris, 1925. Blanche frissonne sous sa jaquette en jersey. Albin avait raison. Cette nuit de novembre est glaciale. Le froid transperce le cuir des bottes et la laine des manteaux. Il pénètre dans la chair aussi profondément que la lame d'un couteau. Blanche ne sent plus ses pieds. Ses mains sont engourdies, gelées. Elle a du mal à remuer les doigts. Il faut pourtant continuer. Ce soir, elle accompagne l'équipe de la soupe de minuit. Une nouvelle offensive contre la faim et le froid qu'Albin, son compagnon, et elle viennent de lancer. Blanche tient à suivre elle-même la distribution des premiers repas. « Bonsoir, madame la commissaire !» lui lance une officière. « Commissaire ! » Blanche n'est pas encore habituée à ce qu'on la nomme ainsi. Elle n'a jamais été mue par une quelconque forme d'ambition personnelle, mais ce titre la rend fière, elle doit l'avouer. C'est la plus haute distinction de l'armée du salut au niveau national. Albin et elle l'ont reçue conjointement. Ils en partagent le titre et les responsabilités comme ils partagent le reste. Ceux qui ont pris l'habitude de nommer indistinctement les Perrons comme s'ils ne formaient qu'un sont parvenus au sommet de la hiérarchie, à la tête de l'armée du salut. Il a été long le chemin, malaisé. Dans les années qui ont suivi le mariage de Blanche et Albin, l'organisation salutiste a essuyé ses plus cruels revers. Elle a même failli se dissoudre faute de moyens. Un peu partout, des postes ont fermé. Et surtout à Paris. Paris que Blanche aime tant, pourtant. Paris qu'elle ne connaissait pas et dont chaque pierre lui semble étrangement familière. De tous les champs de bataille qu'elle a foulés, Paris est celui qu'elle préfère. Celui où subsistent les plus grandes inégalités. Celui où les plus démunis sont broyés. Paris sera le combat de sa vie. Blanche et Albin fondent le Palais du Peuple dans le quartier des Gobelins à Paris. Un hôtel social pour les hommes sans abri, ainsi que le refuge de la Fontaine au Roi pour les femmes. Sous leur impulsion, des hôtelleries et foyers fleurissent un peu partout en province. À Lyon, Nîmes, Mulhouse, Le Havre, Valenciennes, Marseille, Lille, Metz, Reims. Ils créent l'armoire du pauvre qui distribue meubles et vêtements et la soupe de minuit dont le chaudron sillonne les rues de Paris pour offrir à manger aux plus démunis. Ils sont nombreux ce soir-là à se presser autour de l'énorme marmite norvégienne calée sur une charrette à bras. Ils font la queue dans le froid pour quelques lampées de bouillon qui constituent parfois leur seul repas de la journée. Les officières de l'armée font circuler les couvertures, des corbeilles de pain, 200 soupes pour 200 estomacs. C'est trop peu, Blanche le sait. Ils sont des milliers à souffrir de la faim. « Nous n'avons pas d'argent !» murmure un sans-logis en refusant le bol qu'on lui tend. « Nous ne vendons pas la soupe, nous l'offrons !» répond Blanche en soufflant de ses doigts bleuis. Paris la nuit, Blanche connaît. Loin de l'image d'Épinal, de la Concorde ou des Champs-Élysées, elle arpente la capitale, la vraie. Elle remonte la rue de Bièvre, des Trois Portes, la rue Frédéric-Sauton, entre dans les cafés de la place Maubert, où des dizaines d'hommes et de femmes dorment assis, la tête courbée sur leurs bras repliés. C'est ainsi, le vin réchauffe et réconforte. Blanche se fraye un chemin au milieu de cette masse humaine indifférenciée. Cette vision la bouleverse à chaque fois. Certains s'habituent, elle pas. Viennent ensuite les ponts près de Notre-Dame, la rive droite, les ruelles noires et étroites du quartier des Halles. Le ventre de Paris abrite en son sein d'obscurs recoins où le malheur s'entasse dans la crasse et le froid. Blanche est avec eux. Par cette nuit glacée, elle continue sa ronde auprès des sans-abri. Albin sera fâché de ne pas l'avoir rentrée qu'au petit matin, assaillie par la toux, épuisée. Qu'importe, elle sait que sa place est ici, pas dans un lit. Le cortège de la soupe s'arrête dans un faubourg du 13e arrondissement, défiguré par la pauvreté. Blanche s'approche d'un baraquement de fortune quand soudain un vagissement résonne dans l'obscurité. Elle frissonne. Elle qui a mis au monde 6 enfants sait reconnaître le cri d'un nouveau-né. Celui-là n'a pas plus d'un mois. Elle pourrait le jurer. Elle se faufile parmi les cartons et les tôles ondulées pour découvrir sur un matelas à même le sol un petit corps grelottant de froid. Sa jeune mère est auprès de lui. Elle est pâle, d'une maigreur effroyable. Elle dort dehors depuis l'accouchement, confie-t-elle en toussant. Blanche saisit l'enfant pour le réchauffer. « Il faut aller à l'hôpital, de toute urgence, » dit-elle. « Jean vient, » répond la jeune maman. « Il n'y a plus de place là-bas. » Blanche décide de la conduire au centre d'accueil de la Fontaine aux Rois, un refuge pour femmes qu'Albin et elle ont fondé il y a quelques années. Située au fond d'une impasse, la maison est chauffée et propose 200 lits. S'y retrouvent des employés de magasins, des colporteurs de bibelots à deux sous, des vendeuses de journaux, des ouvrières sans famille, des domestiques sans travail, des provinciales fraîchement débarquées à Paris, attirées par le miracle de la capitale. Autant de victimes de la crise du logement que la ville recrache sur ses pavés glacés. Lorsque Blanche et la jeune maman parviennent devant le centre d'accueil, l'endroit affiche complet. Le refuge est pris d'assaut, confie la commandante de l'armée qui le dirige. Elle se voit obligée d'en refuser l'accès à des centaines de femmes chaque soir. 215 hier, précisément. Il faudrait 2 ou 3 maisons comme celle-ci pour les loger. La jeune mère est livide. Son bébé s'est remis à pleurer. Dans la rue, une mendiante s'éloigne, faute d'avoir trouvé un lit, et lui lance en désignant l'enfant. « T'as plus qu'à le flanquer à l'égout maintenant !» Cette phrase, Blanche ne l'oubliera jamais. Ces mots vont la hanter. C'est un échec, une débâcle, une déroute plus cruelle que toutes celles qu'elle a dû affronter. Elle voulait changer le monde. Quelle vanité! Son action est dérisoire, une goutte d'eau dans un océan de chagrin. À cet instant, tout lui paraît inutile et vain. Elle regagne son appartement harassée. Le jour est levé. Albin a maraudé toute la nuit, lui aussi. Il est entré à l'aube et s'est couché. Blanche sait qu'elle ne parviendra pas à dormir. Inutile d'essayer. Elle marche jusqu'à la cuisine et prépare du café. Le liquide brûlant réchauffe lentement ses membres engourdis. Elle a posé le journal sur la table et le feuillette d'un air indifférent en songeant à la jeune mère et à son bébé. Combien de temps tiendront-ils dans le froid ? Combien cet hiver fera-t-il de victimes ? Combien d'hommes, de femmes, d'enfants mourront faute d'avoir un abri, à l'image de ces 2 sœurs de 80 ans, retrouvées sans vie dans un champ de Nanterre ? Blanche les connaissait bien. Les 2 jumelles venaient d'être expulsées et n'avaient nulle part où aller. Elles n'avaient jamais été séparées de leur vie. Elles sont mortes ensemble dans la neige par une nuit glacée. Les doigts noircis par l'encre du journal, Blanche tourne distraitement les pages. Quelques mots soudain l'interpellent. Albin s'est réveillé, il entend du bruit à la cuisine. Il se lève et trouve sa femme debout, agitée. Elle n'a visiblement pas dormi de la nuit. Sans prendre le temps de l'embrasser, Blanche lui tend le journal fébrile. « Lis ça, dit-elle, lis ça, et habille-toi, on y va !» Assis devant une tasse de café, Albin découvre l'article paru ce 28 novembre 1925 dans le journal que lui tend Blanche. Il en parcourt les lignes à haute voix. Un immeuble immense situé en plein Paris au coin de la rue Faidherbe, contenant 743 chambres, reste inhabité depuis plus de 5 ans.
Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée, mon 4 heures de sommeil. Je tire une coupe de pof de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleure mine. Yeah. Le Florida Turnpike, demain soir j't'aime mon mani. Non, Truckers, pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y'a tellement d'inégalités.
d'humanité et de souffrance sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Je traîne dans ma remorque tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruinés à la fin? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Interstate 95, partant fumer tous les rêves, un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, yeah. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort, chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. La question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Un autre truck stop d'autoroute, pogné pour manger de la chenoute. C'est vrai que dans la soupe du jour, y a plus tellement d'amour, yeah. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient déclencher une fusillade. La question que je me pose tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétro. Ouais, n'empêche que moi aussi, quand je roule tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays, yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi pis les deux filles, et j'ai ce sentiment fucké d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant, éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game? C'est si triste que des fois, quand je suis loin de la maison, assis dans mon vieux camion, j'ai toute l'Amérique qui pleure quelque part au fond.
Voilà, vous connaissez donc maintenant les débuts de l'organisation humanitaire L'Armée du Salut, et qui a pour vocation d'offrir un toit à toutes les personnes en situation de détresse. Je dis un petit mot sur l'Armée du Salut, tu veux bien, Dominique?
Ben oui, bien sûr.
Hein, quand même. Aujourd'hui, donc, l'Armée du Salut comprend plusieurs bâtiments, rien qu'à Paris, hein, au moins 6, j'ai cru compter. Celui auquel fait allusion Blanche existe toujours. Il est situé rue de Charonne, qui fait angle avec la rue Faidherbe, dans le 11e arrondissement. Et donc ce bâtiment est exclusivement réservé aux femmes. Le Palais de la Femme, tel est son nom. Et il y a eu des travaux dans ce bâtiment qui est classé au monument historique. Et donc il a des belles statues devant et des décorations sur les murs. Après des travaux entre 2006 et 2009, il comprend désormais des studios individuels permettant de loger 280 personnes, 50 places en centre d'hébergement, je lis là, hein, 50 places en centre d'hébergement et une pension de famille comprenant 20 logements. Sachez aussi, chers auditeurs, qu'il y a quelques places pour un public dit mix, c'est-à-dire des demandeurs d'emploi ou des étudiants. Pour terminer l'émission, j'ai choisi un extrait où Laetitia Colombani évoque le romancier écologiste Pierre Rabhi. Vous connaissez Pierre Rabhi ? Cet extrait me permet de terminer sur une petite note positive tout de même. Il en faut de temps en temps, même si on sait que c'est la fin du monde pour bientôt. Cynthia. C'est la première fois que Solène rencontre officiellement Cynthia. La jeune femme l'effraie. Elle a une façon de parler, de s'adresser à l'autre qui sonne comme une insulte, un juron. Elle ressemble à une cocotte minute sous pression sur le point d'exploser. Cynthia la dévisage, l'œil foncé, avant de s'expliquer. Elle est en conflit avec l'administration du palais. Depuis longtemps, elle demande à changer de studio. Elle n'en peut plus du deuxième étage, des tatas, des poussettes, des enfants qui crient dans les couloirs, des plaques de cuisson en panne quasi constamment. Des mois qu'elle mange froid, qu'elle ne dort plus. Elle s'est plainte mille fois, mais ses récriminations restent vaines. « On n'est pas à l'hôtel, lui a-t-on répondu. On ne change pas de chambre comme ça. » Après chaque départ, les studios sont repeints, rénovés à l'attention des futures résidentes. On ne peut multiplier les travaux pour raison de convenance. Cynthia a beau dire qu'elle n'a pas besoin d'un studio neuf, qu'elle veut juste dormir en paix, que dans le sien elle n'y arrive pas, on ne donne pas suite à ses doléances. Alors voilà, si Solène pouvait aller parler à la directrice, ça aiderait. Elle, on l'écoutera. Solène est embarrassée. Elle ne sait que faire de tout ce mal-être, cette colère que Cynthia jette à la face du monde quand, comme on lance un crachat. Salma l'a prévenue, elle peut être violente. Il lui est arrivé de tout casser dans le foyer, démolissant table et fauteuil. Mieux vaut ne pas la contrarier. Solène n'est pas armée pour ça. Alors elle tente d'expliquer à Cynthia qu'elle peut l'aider à rédiger un courrier à la direction, mais qu'elle ne prendra pas parti dans ce conflit. Le visage de Cynthia change d'expression. Sa bouche se tord dans un rictus où se mêlent colère et mépris. « Alors, t'es comme eux !» lui lance-t-elle. « T'es là, mais tu ne sers à rien. Pourquoi tu viens ici ? Tu t'ennuies chez toi ? Alors tu vas au spectacle ? C'est beau le malheur des autres ? Ça te plaît ? Ça te rassure sur sa petite vie ? Sur ta petite vie ? Ta petite vie de merde dans ton beau quartier ? Rédiger des lettres, tu crois que ça aide qui ? C'est pas ça dont on a besoin. T'as aucune idée de ce qu'on vit ici. Tu viens une fois par semaine, pour toi, c'est juste un passe-temps. Tiens, j'ai mon heure de précarité aujourd'hui. Tu te donnes bonne conscience et après tu rentres chez toi. Tu fermes ta porte et t'oublies. Retourne dans tes beaux quartiers et reste-y, tu ne sers à rien. Personne n'a besoin de toi ici. » Elle termine sa diatribe en lançant un coup dans le MacBook de Solène qui va s'écraser par terre. Salma accourt dans le foyer, alertée par les cris. Elle se précipite. Mais il est trop tard, le mal est fait. Cynthia quitte la salle en hurlant des insanités. La directrice est descendue des étages, elle aussi. Elle constate effarée l'étendue des dégâts. « Encore Cynthia ? » demande-t-elle. « Oui, soupire Salma. Encore Cynthia. » La technologie dernier cri n'a pas résisté aux assauts de Cynthia. Le MacBook ne s'allume plus. Accablée, la directrice a promis à Solène que l'administration paierait pour les réparations. Solène a refusé. Elle ne veut pas de l'argent du palais. Un ordinateur abîmé, il y a plus grave que ça. Ce soir, elle n'a pas faim. Elle n'a touché ni aux brochettes ni au maquis du restaurant japonais. Assise à ses côtés, Salma tente de la réconforter. Elle n'est pas la première à subir la violence de Cynthia. Au palais, nombre de résidentes en ont déjà fait les frais. Son histoire, ici, tout le monde la connaît. Abandonnée à la naissance, Cynthia a grandi de famille d'accueil en foyer. Elle a poussé telle une herbe folle, sans amour, sans stabilité. Renvoyée de tous les établissements, elle a arrêté l'école à 16 ans. À sa majorité, elle se retrouvait à la rue, sans emploi comme la plupart des jeunes dans son cas. Et puis, elle est tombée enceinte. Elle le voulait, ce bébé. Il n'était pas un accident. Cynthia n'a jamais eu de famille. Elle n'a jamais été aimée. Elle avait besoin de s'arrimer à quelqu'un pour donner un sens à sa vie. Cet enfant, c'était sa chance. Un nouveau départ. Il allait la réparer, colmater ses fissures, sa béance. Lorsqu'il est né, pourtant, elle s'est sentie démunie. Un sentiment d'illégitimité et d'impuissance l'a envahie. Comment être mère quand on n'a pas eu de parents? Comment donner ce qu'on n'a pas reçu? Il y avait cet amour immense qui l'a dépassé et cette angoisse aussi, celle de ne pas être à la hauteur. Les démons de Cynthia sont revenus tournoyer autour d'elle. Le père de l'enfant est parti, elle a replongé. Quand le juge lui a retiré la garde de son fils, elle s'est effondrée. 84 heures par an, elle a compté, voilà tout ce qu'on lui accorde de son enfant. Le foyer d'accueil est en province, Cynthia doit économiser pour payer son trajet. Les moments passés avec lui, elle n'en profite même pas. Elle regarde les heures s'égrener, les yeux rivés sur l'horloge. Elle sait qu'à la fin de la journée, son fils repartira de son côté et elle du sien, en attendant le mois prochain. Alors elle est en colère, Cynthia. Elle est en colère parce qu'elle n'a pas choisi cette vie, parce qu'elle rêvait d'autre chose pour son petit, parce que l'histoire se répète impitoyablement et qu'elle est impuissante à en changer le cours. Elle est en colère parce que l'amour ne suffit pas toujours. Solène est ébranlée par ses attaques. Cynthia a raison sur un point. Elle n'est pas venue ici pour aider ses femmes, mais pour se faire du bien. Le palais comme thérapie, c'est de cela qu'il s'agit. Lorsqu'elle ira mieux, il lui suffira de refermer la porte du foyer et de retourner à ses activités. Cet endroit n'est qu'une parenthèse dans sa vie, une parenthèse désenchantée. Un cours de Zumba, quelques lettres, et elle s'est crue acceptée. Elle a pensé que sa place était gagnée au palais. « Trop facile, » répond Cynthia, « rentre chez toi. » Solène se sent amère, découragée, pitoyable. « Pauvre petite fille riche, » dit la chanson. Elle est venue soigner sa dépression auprès de plus malheureuses qu'elle. Qui croyait-elle aider? Pourtant, depuis quelque temps, elle va mieux. Elle reprend possession de son corps, de son esprit, lentement. Elle est de moins en moins dépendante aux médicaments. Son psychiatre a réduit les doses du traitement. Il se dit confiant. « Du sens !» Voilà ce que Solène trouve entre les murs du palais. Elle se sent utile à la communauté. Peu importe alors qu'elle soit légitime ou non, qu'elle vienne d'un beau quartier ou pas, elle est là. C'est ce qui compte après tout, être là, malgré les déceptions, les différences, malgré l'ordinateur saccagé et les jurons de Cynthia. Écrivain public, c'est être écrivain du public, de tous les publics. Cynthia l'a poussé dans ses retranchements, elle a ébranlé ses certitudes, mais Solène tiendra bon. Elle ne cédera pas à la provocation, aux remises en question. Elle reviendra le jeudi suivant et tous ceux qui suivront. Si elle n'a plus d'ordinateur, elle prendra une feuille de papier et un crayon. Ils seront ses seules armes, ses seuls alliés. Ils ne paient pas de mine, mais ils sont puissants, elle le sait. Ils ne changeront peut-être pas l'histoire du palais, ni même la vie de ces femmes, mais ils apporteront leur modeste contribution, comme le colibri de la fable de Pierre Rabhi que Salma lui a raconté. Lors d'un terrible incendie de forêt, les animaux assistaient, impuissants, à la catastrophe. Seul, un petit colibri s'activait, remplissant son bec d'eau pour jeter des gouttes sur les flammes. « Pauvre fou !» lui dit le tatou. « Ce n'est pas avec ça que tu éteindras le feu !» Je sais, répondit le colibri, mais au moins j'aurais fait ma part. Solène est ainsi, un petit oiseau tombé du nid qui tente d'éteindre un incendie. Son action est infime, dérisoire, ridicule, diraient certains, mais elle fait sa part.
Eh bien, merci Hervé pour cette lecture.
Eh bien, je t'en prie.
Cette lecture de...
Les Victorieuses, de Laetitia Colombani, éditée par les éditions Grasset, cette année, en 2019.
Très bien. Eh bien, chers auditeurs, il nous reste à prendre congé. Au revoir. Au revoir Hervé.
Au revoir.
au mois prochain et je te pose la question rituelle.
Évidemment, et je vais te répondre d'une façon rituelle. Je n'ai aucune idée du livre que je lirai la prochaine fois.
Bien. Et c'est ce qui fait tout le charme de l'émission. La découverte. Allez.
À bientôt.
À bientôt.